les chansons et crions la victoire. Christ est au fort, car Dieu a gagné le combat. Et lui, libéré son peuple, sa parole a battu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs, car c'est lui, le qui est par le maître, plus chantons. Yeah.
Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle joie encore de pouvoir annoncer sa glorieuse parole. Le Seigneur se tient derrière sa parole pour la confirmer. Et je m'en souviens lorsque nous étions au Bénin au mois de février dernier. Quelle assurance de savoir que lorsque nous prêchons sa parole, Dieu se tient derrière sa parole pour la confirmer. Quelle assurance, quelle autorité nous pouvons avoir et quelle autorité j'avais de pouvoir dire, voilà ce que Dieu dit. Si nous croyons ses promesses, si nous prenons Dieu au mot, Dieu confirmera sa parole. Et quelle joie de voir Dieu confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Alors la foule savait que la parole de Dieu est la vérité, que nous pouvons nous confier en elle, qu'elle nous conduit dans le droit chemin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons toujours caresser cette parole dans nos cœurs. C'est le seul livre au monde qui nous révèle la vérité. Le seul livre au monde. Ce livre a été critiqué, rejeté, brûlé, bafoué. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu nous a fait deux dons, le don de son Fils et le don de sa parole. Car sans sa parole, nous ne pouvons connaître le Seigneur. C'est sa parole qui nous révèle tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas vrai? Connaître le Seigneur, c'est connaître sa parole. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas le Seigneur. Car c'est dans la Bible, la parole de Dieu, que nous découvrons notre Seigneur, n'est-ce pas vrai? Que son nom soit béni. Et dans cette parole, il y a des trésors inestimables. Et j'aimerais qu'on voit un des trésors les plus précieux de la Bible. Le trésor qui est le fondement même de notre foi. Le titre de mon message sera le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. La Bible appelle le sang de Jésus comme le sang précieux de Jésus. Et nous allons voir pourquoi ce sang est-il précieux. Pourquoi est-il précieux aux yeux de Dieu? Il n'est peut-être pas précieux aux yeux de certaines personnes. Mais laissez-moi vous dire une chose, si quelque chose est précieux aux yeux de Dieu, alors nous avons intérêt à ce que cette chose soit aussi précieuse à nos yeux. Car bien souvent, ce qui est précieux à nos yeux est vil aux yeux de Dieu. Ce qui a de la valeur à nos yeux n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais ce qui a de la valeur à ses yeux, malheureusement pour certains, dans ce monde, n'a aucune valeur à leurs yeux. Pourquoi le sang de Jésus est-il précieux? Précieux. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit cela. Lisons, si vous voulez bien, ce passage-là, très important dans les Écritures. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant, voyez-vous, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables ou par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur considère le sang de Jésus comme quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Et vous savez, c'est terrible. Il y a même certains théologiens, et je les appelle des théologiens entre guillemets, ceux-là, qui considèrent le sang de Jésus comme quelque chose de vil. Et ils ne croient pas à ce sang précieux. Ils appellent cela la théologie de la boucherie. C'est un véritable mépris, un blasphème. Ces théologiens libéraux, ce sont ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ce sont ceux qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Ce sont ceux qui ne croient pas que le sacrifice seul de Jésus nous purifie et nous sauve. Ce sont des théologiens qui annoncent un évangile social et qui vous disent par exemple que Jésus est mort, c'est vrai. Quand ils vous parlent de la mort de Jésus, ils vous diront, mais oui, Jésus est mort, c'est vrai, nous croyons à la mort de Jésus. Mais ils ne croient pas à la mort de Jésus comme la Bible l'enseigne, comme un sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité. Comment interprète-t-il la mort de Jésus et le sang de Jésus? Ils disent que Jésus est mort pour donner un exemple d'amour aux hommes. Voyez-vous, Jésus est mort pour donner un exemple d'amour. Alors voilà pourquoi il est mort. Il n'est pas mort parce que nous sommes pécheurs. Ces gens-là vous disent au contraire que l'homme est bon. Que l'homme est bon. Et que finalement Jésus, son sacrifice, se résume à cela. Voilà, il est mort pour nous donner un exemple d'amour. Alors nous aussi maintenant, nous voyons jusqu'où il a été. Il s'est donné pour se sacrifier, nous aussi. Alors nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons faire du bien. Ce n'est pas un mal de faire du bien autour de soi. La Bible en parle, n'est-ce pas vrai? Mais ce n'est là jamais la véritable signification de la croix. Ce n'est pas en faisant du bien que nous serons sauvés. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous serons poussés à faire du bien en témoignage de reconnaissance à celui qui a tant fait pour nous. Amen. Ce que je vous dis là ce matin, c'est la sève même de l'évangile, mes amis. C'est vital, c'est la sève, c'est le centre. Si on ne comprend pas la signification du sang de Jésus, on ne comprend pas le message de la Bible. Car toute la Bible a été écrite dans cet esprit-là pour révéler dans les derniers temps, les temps de la fin, le salut en Jésus-Christ. Tout dans l'Ancien Testament, dans la loi, les prophètes et les psaumes, tout pointe vers le sacrifice de Jésus-Christ. Tout a été écrit à la lumière de la croix de Jésus. Si nous ne comprenons pas la croix de Jésus, le sang de Jésus, la Bible reste un livre fermé, mes amis. Un livre fermé. Et alors après, on se dit, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais lorsque nous comprenons le sang de Jésus, et c'est ce que je voudrais qu'on médite quelques instants ensemble ce matin, c'est vital. Il nous faut comprendre la signification du sang de Jésus. Et pourquoi ce sang est-il précieux? Est-il précieux pour toi? Est-il tout pour toi? s'il n'est pas tout pour toi, alors il faut se demander si tu es un chrétien. Car pour un vrai chrétien, le sang de Jésus est tout. Ne l'oubliez pas, mes amis. Pendant toute l'éternité, Jésus nous montrera ses mains. Il n'a gardé qu'une chose, le Seigneur, dans le ciel et pour sa gloire, les marques de la croix. C'est la seule chose qui lui est restée. Et il l'a fait volontairement pour qu'éternellement, il nous dise, en nous montrant ses blessures, c'est à cause de mon sacrifice que vous êtes ici. Et vous ne devez jamais, jamais, jamais l'oublier. C'est par grâce que vous êtes ici dans ma présence. Il fallait que je donne ma vie. Il fallait que le Saint-Fils de Dieu souffre pour vos péchés. Voilà pourquoi le ciel est un ciel de fête, de reconnaissance. Personne ne chante les louanges d'un homme ou d'une femme ou d'une église dans le ciel. Personne. Nous ne chanterons que les louanges et la gloire d'une seule personne, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Combien de fois, lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons cela à l'agneau qui a été immolé. Soit la louange, la gloire, la force, la puissance et le règne. Et les 24 vieillards et les êtres vivants se joignaient à toute cette multitude et célébraient la gloire de l'agneau. Le sang précieux de Jésus. Brièvement, nous allons voir pourquoi le sang est important. Pourquoi le sang est si important. Si important. Vous savez, quand l'homme a péché au départ, Adam et Ève ont péché, il s'est passé quelque chose de terrible. L'homme, à partir de ce moment-là, a été sous le poids d'une triple condamnation. Dès le moment où l'homme, où Adam a péché, il s'est trouvé sous une triple condamnation. Premièrement, trois personnes l'ont condamné. Premièrement, c'est Dieu qui l'a condamné, n'est-ce pas vrai? Quand il a péché, automatiquement, il a été séparé de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, 3, il y a tout cela. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais vous pourrez bien lire tout cela à la maison. Genèse 3, tout spécialement. Vous voyez, au verset 7, il est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, donc quand ils prirent cela, au verset 6, la femme qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent. » Voyez-vous ? Chacun, ce n'était jamais de sa faute, c'était toujours la faute de l'autre. Dieu parle à Adam. Adam dit c'est la faute d'Ève. Et Dieu s'adresse à Ève. Ève dit c'est le serpent. Et le serpent, vous savez qui il accuse ? Dieu. Dieu. Le serpent est là pour accuser Dieu. Parce que dans tout, quand il leur a dit de manger de cet arbre-là que Dieu avait défendu, et le serpent a dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger de cet arbre-là ? Est-ce que Dieu a vraiment dit cela ? Voyez-vous, le diable a mis le doute sur la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Autrement dit, c'est comme si le diable disait, Voyez-vous, Dieu ne vous aime pas vraiment. Il vous cache quelque chose. Il vous cache quelque chose. S'il vous aimait vraiment, il vous aurait dit de manger de tous les arbres. Donc, voyez-vous, Dieu a-t-il réellement dit, si vous ne pouvez pas manger de cet arbre, c'est que quand même, Dieu n'est pas si juste que cela. Dieu n'est pas si intègre que cela. Dieu n'est pas si bon que cela. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce que le diable a dit concernant les paroles de Dieu. Et vous savez, c'est toujours le diable qui met en doute la parole de Dieu. Le diable se trouve toujours derrière. Lorsqu'on doute de la parole de Dieu, il est très content, le diable. Mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé, voyez-vous? Le diable, donc, accuse Dieu. Et il en a toujours été ainsi. Toujours été ainsi. Lorsque Dieu nous parle, lorsque nous sommes confrontés devant la réalité de notre péché, tout de suite, nous disons, c'est les autres. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est les voisins, c'est le père, c'est le grand-père. C'est toujours la faute des autres. Mais on a de la peine à accepter que nous sommes pécheurs devant Dieu. N'est-ce pas vrai? Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a accusé, alors qu'autrefois, tous les soirs, l'Éternel Dieu venait visiter Adam et Ève. Et il y avait une communion merveilleuse. Ils étaient nus et ils ne s'en rendaient pas compte. Mais le jour où ils ont désobéi, alors ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Et Adam, qui n'avait pas peur de Dieu, d'un seul coup, il a eu peur. Il a eu peur. Et il a joué à cache-cache. Il a joué à cache-cache avec Dieu. Il est allé se cacher parce qu'il avait eu sa nudité. Et l'Éternel est venu le soir comme cela pour lui parler. Et quand il lui a appelé, « Adam, où es-tu ? J'ai eu peur et je me suis caché. Comment tu t'es caché ? Jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème. Pourquoi tu t'es caché ?» Voyez-vous, quand l'homme pêche, ce sentiment-là fait que on veut se cacher loin de Dieu. Bien souvent, nous disons que c'est Dieu qui se cache. Bien souvent, les hommes disent, « Où est Dieu ? Il se cache !» Ce n'est pas vrai, c'est nous qui nous cachons. C'est une grave erreur. Beaucoup de gens disent, « Mais où est Dieu si Dieu est vivant et tout cela ? Où est-il ?» Là, c'est l'Éternel qui pose la question à Adam, qui dit, « Toi, où es-tu ? Toi, où es-tu ? Ce n'est pas moi qui me cache, Adam. C'est toi qui t'es caché. Moi, il n'y a rien eu de changé. Je suis venu à ta rencontre, comme tous les autres soirs. Pourquoi te caches-tu ? Voyez-vous ? On pense que c'est Dieu qui joue à cache-cache, mais Dieu ne joue jamais à cache-cache avec nous. Dieu est toujours là pour nous aider. Mais bien souvent, c'est notre péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ? En parenthèse, le péché originel n'est pas le fait d'avoir eu des relations sexuelles entre Adam et Ève. Il y a certains qui annoncent cela, qui prêchent que les relations sexuelles, c'était le péché d'Adam et de Ève. Quelle folie ! Le péché originel, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Pourquoi as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu ? En parenthèse, bien souvent, nous parlons d'une pomme. La Bible ne parle pas de pomme ici aussi. Du fruit, il est parlé du fruit, mais pas d'une pomme. Il n'est pas question de pomme. À moins que vous ayez une version où il est parlé d'une pomme, montrez-moi en voir un petit peu. Oui. Peut-être que vous allez, si vous découvrez que ce n'est pas une pomme, vous allez tomber dans les pommes, oui. Ça, vous risquez bien. Comment ? J'ai toujours cru que c'était ça. Non, le péché originel, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est cela. Non seulement, et vous savez, quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? En désobéissant à la parole de Dieu, ils ont obéi au diable. Voilà le péché. Il y a toujours des conséquences au péché. Quand on désobéit à Dieu, on se place sous l'autorité du diable. Et quand quelqu'un pêche, le diable a des droits sur lui. Le diable a des droits. Et vous savez que Dieu ne peut rien faire. Quand quelqu'un pêche et que cette personne ne sait pas comment se débarrasser de son péché, selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le diable a des droits sur cette personne. Parce que le péché est là. Et tant que le péché est là, le diable il peut faire ce qu'il veut dans la vie de cette personne. Autrement dit, le péché nous rend esclaves du diable. C'est pourquoi Jésus, aux gens religieux de son temps, vous savez ce qu'il leur disait ? Aux pharisiens, votre père c'est le diable. C'est pas possible. Alors les autres, les gens religieux, disaient, mais c'est pas possible. Mais pour qui tu nous prends ? Voyez-vous, ils étaient religieux, mais ils n'étaient pas sauvés. On peut être religieux et ne pas être chrétien. On peut être religieux et être rebelle à la parole de Dieu. Alors voyez-vous, j'en reviens maintenant. Quand Adam a péché, donc quand il s'est rebellé contre Dieu, il s'est placé sous l'autorité de Satan. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, Dieu l'a accusé. Tu as péché, voyez-vous ? Le doigt accusateur de Dieu était sur Adam. Adam, tu as péché. Et Adam ne pouvait rien dire d'autre. C'est vrai. Comment résoudre maintenant ? Dieu le condamne. Il faut trouver une solution pour que cette condamnation soit ôtée, n'est-ce pas vrai ? Une deuxième personne l'a condamné, c'est le diable. Dieu l'a condamné parce que Dieu est juste, Dieu est saint. C'est avec des larmes que Dieu a condamné Adam. Tu as péché, Adam. Tu as péché, Ève. Mais il y avait des larmes. À cause de son amour, de sa justice, de sa sainteté, il était obligé de condamner le péché. Mais dans son amour, il voulait sauver le pécheur. Et nous allons voir comment il s'y est pris, justement. Mais à cause de sa sainteté et de sa justice, il devait condamner Adam, il n'était pas possible autrement. Mais avec des larmes, il était obligé de le condamner. La deuxième personne, c'est le diable. Alors lui, c'était avec un rire moqueur. « Satan, maintenant tu m'appartiens. Tu as péché, tu m'appartiens maintenant. » Et Dieu ne pouvait rien faire. Dieu ne pouvait rien faire. Adam était un être libre et il a choisi de désobéir à Dieu, de se rebeller contre Dieu et de se placer sous l'autorité du diable. Dieu l'a laissé. Dieu le laisse. Vous savez, cette attitude-là, cette vérité que nous voyons maintenant met une lumière sur la question que des multitudes de gens se posent. Pourquoi les guerres ? Pourquoi est-ce que, si Dieu existe, pourquoi ces guerres ? Pourquoi toutes ces famines, ces tremblements de terre ? Pourquoi toutes ces choses affreuses qui se passent ? Pourquoi, si Dieu vivait, existait vraiment, alors il ferait quelque chose ? Vous vous êtes pas posé cette question ? Vous vous êtes sûrement posé cette question ? Ou alors vous la posez, cette question ? C'est donc une question très importante. Comment répondre à une telle question ? Est-ce que c'est Dieu qui veut que les choses soient comme cela ? Est-ce que c'est Dieu qui est la cause de toutes les guerres ? Est-ce que c'est Dieu qui est la cause du malheur des hommes ? La Bible nous dit que cela n'est pas du tout le cas. Que s'il y a des guerres, c'est à cause de l'homme et de sa rébellion et de sa désobéissance à la parole de Dieu. Amen. La faute en est à l'homme qui est libre. L'homme peut soit dire oui à Dieu et vivre une vie heureuse, joyeuse. Et si le monde entier dit oui à Dieu, ce serait le ciel sur la terre. Ce serait le paradis sur la terre. Ce serait l'âge d'or sur la terre. Mais malheureusement, l'homme a été créé libre. C'est pourquoi il ne forcera jamais personne à croire. Jamais. Jamais Dieu ne forcera personne. Mais malheureusement, l'homme a fait un mauvais usage de sa liberté. Un mauvais usage. Au lieu d'obéir à Dieu et de faire sa volonté, comme cela devait être, il a choisi de se rebeller. Et en se rebellant, c'est lui-même qui entraîne sur lui tous ses malheurs qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Amen. Pourquoi y a-t-il toutes ces guerres entre hommes ? Parce que l'homme est en guerre avec Dieu. Voilà la cause.
Et tant que l'homme est en guerre avec Dieu, les hommes entre eux seront toujours en guerre. Il n'y aura pas de solution. L'homme est en guerre avec Dieu. Mais ça, on ne veut pas l'admettre, bien sûr. On ne veut pas l'admettre, c'est la dernière chose qu'on veut y admettre. Et le problème de l'homme, c'est l'orgueil. Et c'est cet orgueil qui ne veut pas admettre que l'homme a péché. Et quand quelque chose ne va pas, on fait comme Adam. Adam, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as péché. Mais c'est la femme que tu m'as donnée ici. C'est elle qui m'a donné de ce fruit. Voyez-vous comme il s'est disculpé. Adam, tu as péché. Mais c'est écoute, c'est cette femme, regarde-là, tu me l'as donnée. C'est elle. C'est de sa faute. Et le Seigneur va vers à Ève et lui dit, pourquoi tu as fait ça ? C'est le serpent qui m'a séduit. Ça pourrait durer longtemps, cette histoire. C'est toujours les autres. Dites-moi, est-ce qu'on n'est pas comme cela ? Le cœur humain n'est-il pas comme cela ? On est tous les mêmes. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas comme cela, c'est qu'il ne se connaît pas, c'est qu'il se fait des illusions sur son compte. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Voilà une vérité qui fait partie de la bonne nouvelle. De réaliser que nous ne sommes rien du tout. Et c'est alors, quand nous réalisons que nous sommes perdus, que notre cœur est mauvais, que nous sommes en guerre avec Dieu, c'est lorsque nous faisons la paix avec Dieu que l'homme fera la paix avec son prochain. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, dans ce monde, il n'y aura jamais de paix tant que l'on refuse le prince de la paix qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes ces promesses que l'on entend à gauche, à droite, toutes ces politiques, toutes ces philosophies, ce nouvel âge, il y a toute une philosophie qui se nomme le Nouvel Âge maintenant. Il y aura bientôt un message dans le journal Compassion là-dessus. Et nous en parlerons de plus en plus. Ce sont des hommes un peu de partout qui veulent apporter l'âge d'or sur cette terre. Qui veulent apporter l'âge d'or. Et ce sera un mélange de christianisme, d'hindouisme, de bouddhisme, d'un peu de tout. Et ce sont des gens qui croient que l'homme est Dieu. Qui est le mensonge de l'hindouisme. Vous êtes des dieux. Dieu est en vous. Mes amis, si nous sommes inconvertis, Dieu n'est pas en nous. C'est le péché qui est en nous, mais jamais Dieu. Le Seigneur vient habiter en nous lorsqu'on se repent de son péché. Amen. Que le sang de Jésus vient purifier notre cœur. Alors Jésus vient dans notre cœur. Jésus vient dans notre cœur. Par le Saint-Esprit, nous devenons un enfant de Dieu. Mais nous ne devenons pas des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mais voilà dans le siècle dans lequel nous vivons. Mes amis, et laissez-moi vous dire une chose. J'ai assez bien étudié tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer bientôt. Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce système de nouvel âge. Et vous verrez, il y a des présidents, il y a des personnes très influentes qui sont là-dedans. Persécuteront les vrais chrétiens. Parce qu'ils considèrent que les vrais chrétiens sont des ennemis à cette réalité-là. Parce qu'ils savent que tant que les chrétiens prêchent que l'homme est pécheur, et alors qu'eux prêchent que l'homme est Dieu, alors il y a quelque chose qui n'ira pas. Tant que les chrétiens prêchent que Jésus est le seul sauveur, et qu'eux prêchent que vous pouvez être votre propre sauveur, alors vous pensez bien qu'il y a là une contradiction flagrante. Et ils le disent. Si nous voulons arriver à nos fins, et si nous voulons que apporter l'âge d'or dans ce monde, nous devrons éliminer les vrais chrétiens. Éliminer. C'est pourquoi, mes amis, nous devons être fermes. Et quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, nous devons être prêts à donner notre vie pour le Seigneur. Amen. Jésus lui-même nous avertit. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est pourquoi nous devons rester fidèles. Je continue ma pensée. Le Dieu lui a dit, tu es condamné, tu as péché. Le diable lui dit, tu as péché. Et il a péché. Et maintenant, tu es sous mon autorité. Et une troisième personne le condamne, c'est lui-même. Lui-même. J'ai péché. Ou Adam, tu as péché. Il se dit à lui-même, tu as péché, Adam. Tu as péché maintenant. Tu n'es plus comme avant. Tu étais nu et tu ne t'en rendais même pas compte. Et après, Quand avoir pêché, ils ont dû fabriquer tout de suite des feuilles de, une ceinture avec des feuilles de figuier. Mais Dieu n'était pas satisfait avec cette protection. Et Adam était maintenant sous un poids de culpabilité lui-même. Alors voyez-vous, dès le début de la création, quand l'homme a été créé, et quand l'homme a péché tout spécialement, il y a eu trois condamnations qui sont tombées sur lui. Dieu l'accuse, le diable l'accuse et l'homme l'accuse. Comment s'en sortir? Comment sortir de cette triple condamnation? Comment faire que Dieu ne nous condamne plus? Comment faire que le diable ne nous condamne plus? Et comment faire que nous-mêmes, nous ne soyons plus condamnés? Mes amis, comment ils vont faire? C'est ni le nouvel âge, c'est ni une religion, quelle qu'elle soit. C'est ni une nouvelle philosophie. Ce n'est pas la sagesse de l'homme, ce n'est rien d'autre. La réponse est dans le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Et dès le début, l'éternel Dieu a voulu le montrer à Adam et Ève. Comment est-ce qu'il leur a pardonné? C'est très intéressant de voir cela. 3:21. Verset 20, si vous voulez déjà. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 3:21. Lisez bien cela, là, ici. Il y a l'image, il y a en préfiguration le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Et tout au long des Écritures, nous allons voir comment Dieu pardonne quelqu'un. Comment Dieu a-t-il pardonné à Adam et Ève? Comment s'y est-il pris? Est-ce qu'il leur a dit, comme beaucoup disent aujourd'hui, oh, bah, oui, Adam, bon, Ève, à cause d'une pomme, hein? Non, pas d'une pomme. À cause d'un fruit? C'est rien, t'as croqué un fruit, c'est pas grave, un fruit. Voyons, on dirait aujourd'hui, mais voyons, parce qu'il a croqué un fruit défendu, mais non. Il y avait plus que croquer un fruit défendu. Il y avait une rébellion. Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas cela. Dieu voulait les tester. C'était un test pour Adam et Ève. Dieu leur avait donné tous les autres arbres. Il y avait de quoi vivre dans l'abondance, de quoi être heureux. Ils n'avaient pas besoin de cet arbre-là pour être heureux. Il y en avait des milliers. Donc il ne leur manquait pas cet arbre. Il ne leur manquait pas, mais c'était un test. Il fallait que Dieu les fasse passer par le test. Vont-ils m'obéir? Et il fallait qu'ils m'obéissent aussi volontairement. En mettant cet arbre-là, c'est comme si Dieu disait, voilà, tout est là, mais je veux que vous me serviez et que vous m'aimiez volontairement. Alors il faut que je mette ce test-là. En mettant cette seule interdiction, vous pourrez ainsi me servir volontairement. Autrement dit, vous refusez par vous-même de ne pas manger de cet arbre, mais par vous-même, vous acceptez de manger de tous les autres arbres, volontairement. C'est un test de leur obéissance. Amen. C'est un test. Mais ils ont désobéi et ils ont péché. Et comment Dieu s'y est pris? Il n'a pas passé par-dessus comme ça en disant, oh, c'est rien du tout. Le salaire du péché, Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'éternel Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et pourtant, il n'est pas mort. Quand vous lisez, il n'est pas mort. Alors qu'est-ce qui... Et pourtant, Dieu, est-ce qu'il ment? Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand ils en ont mangé, ils ne sont pas morts. Est-ce que Dieu a menti? Jamais. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible qu'il mente. Donc, quelque chose est mort en eux. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. C'est qu'à partir de ce moment-là, la mort spirituelle est entrée en eux. Eux qui avaient une communion parfaite avec l'Éternel, qu'ils l'aimaient, qu'ils l'adoraient. Adam avait une sagesse extraordinaire. Vous savez que c'est lui qui a donné des noms à tous les animaux de la terre. C'est lui qui a donné les noms. Quelle sagesse extraordinaire! Extraordinaire! On parle que l'homme a évolué, l'évolution de l'homme, mais la Bible parle plutôt du contraire. C'est la décadence de l'homme, pas l'évolution. quand on considère Adam, la sagesse qu'il avait. Eh bien, est-ce qu'on est maintenant? Je vous assure, on est plus grand-chose. Il était un véritable ordinateur. Comment Dieu a-t-il pardonné? Et c'est important, là, maintenant. Est-ce qu'il a dit, bon, mais maintenant, t'as péché. Bon, bah, ça va. Allez, terminé. Bon, bah, allez, on tourne la page. Hein, tu fais une petite prière. Ou tu demandes tout simplement pardon. Et puis, ça suffit. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Attention. Si vous lisez bien votre Bible, c'est pas du tout comme cela que ça s'est passé. Et alors, ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Est-ce que Dieu était content avec cette feuille-là? Cette ceinture-là? Pas du tout content. Alors l'Éternel est venu, et regardez bien. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Des habits de peau, qu'est-ce que ça vous fait suggérer cela? Voilà. Que Dieu, c'est Dieu qui a dû tuer un animal, un agneau, certainement. Ou une brebis, on ne sait pas. Mais l'Éternel Dieu fit des habits de peau. Voyez-vous, c'est Dieu lui-même qui a tué une bête pour qu'il soit pardonné. Et maintenant, écoutez, notez bien cette pensée capitale que nous trouvons tout au long des Écritures. Pour qu'une personne soit pardonnée, pour qu'une vie soit sauvée, il faut qu'un sacrifice soit offert. Il faut qu'un sacrifice soit offert. Pour qu'une vie soit livrée, il faut qu'une autre vie soit offerte en sacrifice. Ici, ils ont péché et il fallait qu'un agneau soit offert en sacrifice. Vous comprenez cela? Ici, il y a là cette vérité capitale. Pour qu'ils soient pardonnés, pour que leur vie soit sauvée, il fallait qu'une autre vie soit sacrifiée. Et là, dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que Israël devait offrir des sacrifices. Les païens, offraient des sacrifices humains. Voyez-vous? Même les païens ont cela en eux, mais ils étaient dans l'aveuglement. Ils ne savaient pas comment être pardonnés, mais voilà comment les païens font, même encore aujourd'hui. Allez en Inde, allez dans d'autres nations. Ils exigent un sacrifice humain pour être pardonnés de leurs péchés. Mais en Israël, on n'offrait pas des sacrifices humains. On offrait des sacrifices d'animaux. Et quand vous lisez tout l'Ancien Testament, chaque fois qu'un Israélite avait péché, il ne pouvait pas être pardonné comme cela. Il fallait qu'il vienne devant l'Éternel en offrant un agneau. Il fallait qu'une vie soit sacrifiée pour que sa vie soit pardonnée. Ce n'était pas possible autrement. Mais vous dites, mais pourquoi cela? Vous dites, mais c'est pas possible. C'est ce que les théologiens libéraux disent. C'est de la boucherie tout cela. C'est parce qu'ils ne comprennent pas deux choses. Ils ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Et ils ne comprennent pas la gravité du péché de l'homme. Voilà pourquoi l'homme réagit comme cela. En disant, mais pourquoi doit-on offrir un sacrifice? Est-ce qu'on ne peut pas être pardonné comme cela? Non, mes amis. À cause de deux raisons. À cause de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et il ne peut pas passer par-dessus le péché comme cela. Il faut qu'il le juge. La sainteté de Dieu, c'est sa séparation du péché. C'est Dieu qui ne peut pas voir le mal. Nous sommes tellement habitués à voir le mal, n'est-ce pas vrai? Tellement, on est tellement dans le bain. C'est comme le marchand de poissons, qui sent le poisson, mais il ne se rend pas compte qu'il sent le poisson. Mais quand il va quelque part, oula, il sent le poisson. Et c'est comme celui qui fume aussi, celui qui fume. Il ne se rend pas compte qu'il sent la cigarette. Mais quand il rentre dans un endroit où on ne fume pas, tout de suite, qui est-ce qui fume ici? Même si la personne ne fume pas, ça, c'est dans ses habits, c'est pas vrai? C'est imprégné en lui, il ne s'en rend plus compte. Il vit tellement là-dedans qu'il ne s'en rend pas compte. Il fume du mot dans le doigt, il ne s'en rend pas compte qu'il sent mauvais. Le poissonnier, c'est la même chose, le marchand de poissons. Il sent, oui, mais il s'en rend pas compte. Mais Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas regarder le péché, nous dit la Bible. Pourquoi cela? Parce que Dieu est saint. Il doit juger le péché. Et deuxièmement, à cause de la gravité de notre propre péché. Nous, on dit, voyez-vous, un petit péché, j'ai désobéi, j'ai fait le mal, c'est rien du tout. Non, mes amis, si vous étiez la seule personne à pécher, à dire un mensonge, vous seriez privé de la gloire de Dieu éternellement. Même si vous étiez la seule personne qui ait péché sur cette terre, et apparemment un petit péché, vous seriez condamné éternellement. Cela révèle la sainteté de Dieu et la gravité de notre péché. Voilà pourquoi il fallait qu'une autre vie soit livrée. Et tous ces différents sacrifices qu'il y a eu étaient pour annoncer la venue du dernier sacrifice, du sacrifice parfait, qui est Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, quand au début de son ministère, il a vu arriver Jésus, qu'est-ce qu'il a crié à la foule? Qu'a-t-il dit à la foule? En pointant du doigt, il leur a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est lui, par son sacrifice. Alors, les péchés seront pardonnés. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices ne pardonnaient pas les péchés. Tous les sacrifices qui étaient offerts couvraient les péchés. Seulement, ils les couvraient. Le sang d'un agneau, le sang d'une bête, ne pouvait pas purifier les péchés de quelqu'un. Ils les couvraient. En attendant le sacrifice parfait de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi des milliers de litres de sang ont coulé, des animaux, des milliers. Et quand vous lisez le Lévitique et tout cela, si vous ne comprenez pas pourquoi ces choses ont été écrites en vue du sacrifice de Jésus, ces choses-là, c'est du latin pour vous, vous ne comprenez pas. Mais lorsque nous comprenons la sainteté de Dieu et la noirceur de notre péché, alors nous comprenons cela. Amen. Alors, par le sang de Jésus, donc, il fallait que Dieu trouve un sacrifice. Et ce sacrifice parfait, c'est Jésus. Jean 1. 29, justement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le dernier sacrifice. Le seul sacrifice qui purifie nos péchés. Amen. Et alors, voici les trois versets maintenant qui vont vous permettre d'avoir les trois libérations de la part de Dieu, de la part du diable et pour vous-même. Trois versets qui vont vous révéler cela. Alors, notez-les si vous voulez. Notez. Le sang de Jésus satisfait la sainteté et l'amour de Dieu. Colossiens 1:20. Le sang de Jésus satisfait la sainteté, la justice et l'amour de Dieu. Colossiens 1:20. Un verset extraordinaire. Colossiens 1:20. Je lis ce verset. Colossiens 1:20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Autrement dit, Dieu a fait la paix avec les hommes par le sang de la croix. Amen. Dieu a fait la paix. Quand Jésus a versé son sang, Jésus a satisfait la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Par sa justice, Dieu a dit, il faut que le péché soit condamné. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Lui le juste, pour nous injustes. Mais il a aussi satisfait l'amour de Dieu. Parce que quand Jésus est mort, c'était l'occasion pour l'homme d'être pardonné de ses péchés. À tous ceux qui croient à son sacrifice, ils peuvent être pardonnés de leurs péchés. Amen. Donc le sacrifice de Jésus satisfait la justice de Dieu. Jésus a été condamné à notre place. Et satisfait l'amour de Dieu. Tous ceux qui croient en ce sacrifice peuvent être pardonnés et être libérés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, le cœur maintenant du Père est satisfait parce que Jésus a été condamné à notre place. Il a satisfait la justice et l'amour de Dieu. Amen, il a fait la paix maintenant. Tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus ont la paix avec Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième libération, le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous justifie, nous libère, nous pardonne de tous nos péchés. Romains chapitre 5, verset 9. Romains 5, 9. Romains 5, 9. Oui, comment être libéré de sa propre condamnation? Romains 5, 9. À plus forte raison donc maintenant, déjà au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Voyez-vous ici, justifiés par son sang, nous. Donc le sang nous justifie. Autrement dit, tous ceux qui mettent leur confiance dans le sang de Jésus pour le pardon de leurs péchés, aux yeux de Dieu, ils sont considérés comme des justes. Et le mot « justifié » ici veut dire être considéré comme si vous n'aviez jamais péché. Être considéré comme si vous aviez toujours satisfait la justice de Dieu. Alléluia! Dieu ne vous condamne plus à cause de Jésus. Maintenant, vous-même, vous n'avez plus à vous condamner. Vous pouvez dire « Le sang de Jésus m'a justifié. J'ai cru au sacrifice de Jésus. » Désormais, Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Alléluia! Non seulement Dieu nous pardonne, mais il nous justifie par son sang. C'est-à-dire qu'il nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Comme si nous avions toujours satisfait à la justice et à la sainteté de Dieu. Alléluia! Voilà ce qu'est la justification par son sang. Alors, première libération, Dieu ne peut plus me condamner. Deuxième libération, je suis libéré par le sang de Jésus, je suis justifié. Et troisième libération, le diable. Le sang de Jésus annule toutes les accusations du diable. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Maintenant, le sang de Jésus annule toutes les accusations du diable. Alléluia. Et je lis ce passage au verset 10 déjà. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur des frères. » Voyez-vous, le diable, qui était là toujours à nous accuser, jour et nuit. Et comment ils l'ont vaincu? Ils l'ont vaincu, donc les chrétiens, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Gloire à Dieu! Le sang de Jésus annule toutes les accusations du diable. Maintenant, vous pouvez dire au diable qui veut vous accuser, « Eh, tu as péché. » Et alors, comment vous allez lui répondre? Si vous n'avez pas mis votre confiance dans le sang de Jésus, si vous n'êtes pas repenti de votre péché, le diable aura toujours des droits sur vous. Mais si vous lui dites, « Regarde-moi, Satan, écoute-moi un petit peu maintenant. Tu m'accuses? Mais écoute-moi bien. Je me suis repenti de mes péchés. Je méritais la condamnation, c'est vrai. Mais j'ai cru en Jésus-Christ, qui a été condamné à ma place, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et vous dites au diable, Satan, écoute-moi bien. Le châtiment qui devait venir sur moi, la punition qui devait venir sur moi, Jésus l'a subi à ma place. Il a été condamné à ma place. Ce qui fait que tu ne peux plus me condamner. Ma dette a été payée. Et vous pouvez dire, arrière de moi, Satan. C'est vrai que je méritais la condamnation. C'est vrai. Mais un autre, le pur, le saint, le juste, le fils de Dieu, le seul qui pouvait mourir à notre place, est mort sur la croix. Tu es vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Autrement dit, vous devez dire ce que la Bible dit concernant le sang de Jésus au diable. Il n'y aura pas d'autre libération. Et vous verrez que si vous tenez ferme, le diable s'en ira. Mais vous ne pouvez pas discuter avec le diable. Si vous venez avec vos propres œuvres, si vous venez avec vos petites choses là, « Ah oui, mais moi je sais combien vous êtes bon, combien vous êtes gentil, combien vous méritez le pardon de Dieu. » Le diable se moquera de vous. Et vous n'en sortirez pas. Il vous ficellera. Et il se moquera de vous. Mais comment lui répondre? Satan, c'est vrai que je méritais la condamnation à la mort. Mais regarde à la croix, lis Ésaïe 53, 4 et 5. Le châtiment qui me donne la paix La punition qui me donne la paix est tombée sur Jésus. Désormais, je suis un autre libre. J'ai cru en Jésus. Je me suis repenti de mes péchés. Tu n'as plus le droit de m'accuser. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Triple libération. Vous avez vu? Dieu ne nous condamne plus. Il a fait la paix par le sang de la croix. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Et le diable n'a plus le droit de nous accuser. Parce qu'un autre a été accusé et condamné à notre place. Comprenez-vous pourquoi maintenant le sang de Jésus est précieux? Voilà, voilà pourquoi le sang de Jésus est précieux. C'est notre passeport pour le ciel. C'est notre passeport pour le ciel. Et c'est aussi la clé pour une vie chrétienne victorieuse. Amen. La clé. Quand nous pensons que Dieu ne nous aime pas, regardons à la croix, au sacrifice de Jésus. Là, Jésus a satisfait la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. À cause de Jésus, nous sommes aimés maintenant, nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés aussi. Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Et le diable n'a plus le droit de nous accuser. Ce sont des vérités dont il faut nous nourrir. Pas seulement le jour où nous nous convertissons, mais tous les jours de notre vie. C'est là que l'ennemi nous attaque. Il veut nous arrêter. Et combien de chrétiens qui chavirent, qui vont à gauche, à droite, qui n'ont pas de vie chrétienne victorieuse, ont oublié ces vérités importantes. Ils les ont oubliées et ils se laissent accuser par le diable. Combien de chrétiens sont sous le sentiment de culpabilité? La Bible dit, je termine maintenant, Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Il n'y a plus de condamnation. Si tu t'es repenti de tes péchés, si tu veux vivre une vie nouvelle, et que si tu as mis ton espérance, ton salut dans le sang de Jésus pour être pardonné, tu seras pardonné et le ciel te sera ouvert. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous donne d'avoir toujours dans nos cœurs de savoir que seul le sang de Jésus est précieux aux yeux de Dieu pour nous donner la vie éternelle et la victoire sur l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen.